Bien, bonjour Sonra, et j'aimerais partager avec vous ce matin une réflexion sur le psaume 34. We are the champions, nous sommes les champions. Quel est le point commun entre Alors, c'est une question facile. Quel est le point commun entre ces différentes images qui vont apparaître? Voilà. Quel est le point commun entre ces images? Ouais. Ouais, ce sont tous des sportifs, ok, ça marche. Et ce sont tous des vainqueurs. Ils ont tous remporté quelque chose. Et ce sont tous des champions qui célèbrent leur victoire. Et à juste titre, parce qu'ils ont remporté une victoire grâce à leurs compétences exceptionnelles, grâce à leur combativité incroyable, grâce à leur résistance et toutes les techniques qu'ils ont développées, et c'est assez extraordinaire. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre type de champion. Un champion qui célèbre sa victoire remportée en faisant le fou. Il faut avoir conscience que David, c'est un jeune guerrier. David est un berger, mais qui, très jeune, a remporté une victoire incroyable en tuant avec sa fronde un géant de 3 mètres de haut et en mettant en déroute l'armée qui s'opposait à Israël. Et David, c'est un champion ici qui célèbre sa victoire, alors que pour remporter cette victoire, il a dû faire le fou. C'est assez paradoxal, et c'est ce qu'on lit pourtant dans le psaume 34. Si on devait donner en effet un air à ce psaume 34, on le chanterait certainement sur l'air de We Are the Champion de Queen, parce que c'est une chanson, c'est un psaume qui raconte la joie de la victoire après une terrible épreuve. David était sur le point de mourir parce qu'il était pourchassé par Saül, par le roi d'Israël qui voulait sa peau parce que David menaçait la place de ce roi d'Israël. Et David n'a eu qu'une seule solution, c'est d'aller se réfugier chez les ennemis d'Israël, les Philistins. Et arrivé sur place, ils l'ont regardé, ils ont fait « Mais attends, c'est David, c'est celui qui a tué Goliath ?» C'est David, c'est celui qui nous a déjà tapé dessus plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Seule issue pour David, c'est de feindre qu'il était complètement fou, allié, de se rouler par terre, de baver, etc., pour qu'il reste tranquille. David a échappé à la mort. David a réussi à échapper à la colère des Philistins, mais il l'a fait d'une manière incroyablement humiliante, puisqu'il a fait le fou. Et pourtant, il est toujours vivant. Et dans ce psaume 34, il l'exprime et il éclate et il explose de joie parce qu'il est toujours vivant et il sait à qui il le doit. Certainement pas à sa force, mais grâce à l'Éternel. Alors je vous propose de réfléchir ensemble aux trois passages que l'on peut trouver, aux trois parties que l'on peut trouver dans ce psaume. La première partie, c'est « Je suis libéré, délivré ». Il se trouve que David, ici, fait en effet référence à son témoignage personnel. Il raconte ce qui lui est arrivé. Et là, regardez le verset, on va lire les versets 2 à 8 pour commencer. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. David est en fuite, il est hors la loi, il est mal armé, il est en danger. Et pourtant, comment commence ce psaume ? Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Il se trouve qu'ici, David donne trois conseils pour louer l'Éternel. D'abord, je veux. Je veux, c'est-à-dire, c'est un choix. Quoique, si je dis je veux respirer, je n'ai pas vraiment le choix. Par contre, si je dis je veux respirer de l'air pur, eh bien, je vais faire en sorte de pouvoir respirer de l'air pur. Il se trouve que cette décision ici, je veux bénir l'Éternel, c'est un choix actif, c'est un acte actif, c'est une décision, un engagement que David prend. Et c'est possible que parfois, je n'ai pas la tête à louer Dieu, ou que mon humeur, les émotions qui sont en moi me disent que, essayent de me dicter le fait que je ne dois pas louer Dieu. Mais ici, David veut louer Dieu, et c'est ce sur quoi notre adoration de Dieu devrait être basée. Non pas sur nos sentiments, mais sur notre émotion. Alors, il se trouve que David a remporté une grande victoire, et qu'il a donc des émotions aussi qui le poussent à louer Dieu. D'ailleurs, on voit bien avec le verset 6, parce qu'il exprime le fait, quand on tourne les regards vers lui, vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Deuxième conseil que David nous donne, c'est que si je veux bénir l'Éternel, c'est parler à Dieu de mes sujets de reconnaissance. J'ai vu ce matin une caricature amusante de Alain Auderset, le dessinateur genevois. Et en fait, il montre un paysage en Suisse. Et de partout, c'est marqué, donc le titre, c'est « La prière du Suisse ». Et on voit un balai, c'est marqué « Prière de laisser la rue propre »,« Prière de fermer la porte », »,« Prière », vous voyez l'amusement, la Suisse est propre, tout est à sa place, etc. David, lui, a un autre type de prière. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Exprimer à Dieu nos sujets de reconnaissance, ça se voit sur le visage. Et il se trouve que cet été, on a eu le droit à quelques messages de Pierre, et notamment une phrase qui m'a frappé, où Pierre nous a donné le conseil, tous les matins, en se levant, de penser à 5 choses positives. Et alors, j'ai fait un petit peu l'exercice, et c'est un bon exercice. L'habitude commence à s'installer, Pierre, comme tu le voulais. Il se trouve que ce que j'ai réalisé, c'est que trouver 5 choses positives, tout le monde peut le faire, qu'on soit chrétien ou pas, et ça fait du bien, en effet, au moral. Mais ce qui est extraordinaire lorsqu'on est chrétien, c'est que non seulement on peut penser à 5 choses positives, mais on a quelqu'un à qui on peut exprimer notre reconnaissance. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le troisième conseil que l'on trouve ici, dans ce verset 2, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. » C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que je vis, quelle que soit la période par laquelle je passe. C'est une petite fille qui demande à sa tante « Mais Tati, c'est quoi ces lignes sur ton visage ?» Et la tante est un peu surprise. « Oui, alors tu vois, viens, assieds-toi, je vais t'expliquer. Alors tu vois, en fait, cette ligne-là qui est sur mon front, horizontale, en fait, elle y est depuis très longtemps. C'est tous les soucis que j'ai eus quand j'étais étudiante, tout le stress que j'ai eu pour mes examens et mes inquiétudes que j'avais concernant l'avenir, etc. Et puis tu vois, il y a aussi une autre ligne là, c'est une petite ligne verticale. Celle-là, c'est aussi toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie de couple avec ton oncle et puis tes cousins qui m'ont donné aussi plein de problèmes, etc. Et puis, tu vois, j'ai aussi des lignes qui sont là au coin de mes yeux, comme ça. On les appelle les pattes d'oie. Mais tu vois, celle-là, elle représente toutes les larmes que j'ai eues, mon premier chagrin d'amour, les remarques blessantes que j'ai reçues, mais elle représente aussi toutes les larmes de reconnaissance que j'ai versées quand le Seigneur est rentré dans ma vie. Et puis, autour de ma bouche, il y a aussi des petites lignes. Et ces petites lignes-là, en fait, elles se sont creusées à chaque fois que j'ai rigolé dans ma vie et que j'ai souri. Et en fait, c'est la liste de toutes les joies que j'ai pu avoir dans ma vie. Des joies toutes simples et puis des joies plus profondes. Et toutes celles qui sont venues aussi lorsque j'ai compris à quel point l'amour de Christ pour moi est énorme. Et finalement, tu vois, ces lignes sur mon visage, eh bien, sont tout simplement mon histoire personnelle. Et elles sont là, et j'en regrette aucune. Elles font partie de ma vie, et de la manière dont le Seigneur aussi a dessiné ma vie. David, ici, il est en fuite. Il est hors la loi. Il est mal armé. Et pourtant, qu'est-ce qu'il exprime ? Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Le temps passe, les expériences s'accumulent, faciles ou difficiles, mais quel est mon regard sur les circonstances de ma vie ? Est-ce que je méprise les circonstances de ma vie ? Est-ce que j'en veux à Dieu pour les circonstances que je traverse ? Cette phrase ici, elle dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et lorsqu'on recherche un petit peu les autres phrases dans la Bible où on voit ce mot « toujours », eh bien on réalise que il y a une partie des versets qui sont tout à fait intéressants. Regardez par exemple comment Paul utilise cet adverbe. Comme attristés, pourtant, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant, nous en enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Paul nous montre ici que, malgré des circonstances qui étaient les siennes, matériellement compliquées, moralement difficiles, eh bien pourtant, il était toujours joyeux. Et si on poursuit, on voit que Paul donne des conseils. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ou encore, soyez toujours joyeux. Comment est-ce que Paul peut arriver à dire des choses pareilles, alors que six circonstances sont si compliquées ? Eh bien, comme David, il sait où, quelle est la source de cette joie. Il sait que ce ne sont pas les circonstances qui dictent sa joie, mais c'est là où son regard se porte. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Les versets 9 à 15 sont un petit peu différents dans ce psaume 34. On trouve beaucoup de verbes à l'impératif. David se met à donner des conseils, tout simplement parce que ce psaume témoigne d'un esprit de confiance débordante en Dieu. Le cœur de David est tellement plein qu'il souhaite encourager d'autres personnes à mettre leur confiance en Dieu. Car si Dieu a réussi à arracher David au danger, il peut aussi le faire pour d'autres. Il y a deux expressions clés sur lesquelles j'aimerais m'arrêter dans ces versets 9 à 15. La première, c'est verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » David est sympa, il partage le gâteau. Il a découvert quelque chose d'extraordinaire et il veut en faire profiter d'autres. Vous voyez, si je parle avec ma femme et que je dis « Allez, on retourne près de Bordeaux, au bord du bassin d'Arcachon », sans même se parler, sans même tenir le volant, je sais que la voiture va nous mener sur la jetée d'Andernos devant un glacier. Un glacier qui fait des glaces tellement bonnes que chaque fois où on peut retourner là-bas, c'est là où on va aller parce que ça représente beaucoup pour nous. On a tellement un bon souvenir de cette glace qu'on a envie d'y retourner. Eh bien, il se trouve que ce verset 9, c'est un peu cette idée. David a réalisé que Dieu est bon et que du temps dans sa présence est tellement formidable qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans sa présence. Et d'ailleurs, ce n'est pas que moi qui aime bien ce verset, c'est aussi Pierre. Dans sa lettre, il reprend cette expression et vous regardez ce qu'il dit. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » De quelle nourriture s'agit-il ici ? Le lait spirituel, le lait pur de la parole. Cette métaphore du lait pur de la parole, du lait de croissance ici pour un bébé, on peut bien sûr la rapprocher de l'image du fait qu'on a besoin de la nourriture matin, midi, soir, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, vous avez entendu parler que depuis le 24 juillet, depuis le 20 juillet, pardon, les états généraux de l'alimentation se sont ouverts. On n'en parle pas énormément, mais ça peut avoir des conséquences intéressantes. Notamment, il y a une réflexion autour d'un chiffre qui m'a frappé. En France, 8 millions de personnes n'ont pas accès à une alimentation adéquate en quantité et en qualité. 8 millions de personnes sur 65 millions, ça fait, on n'est pas loin de 10%. C'est préoccupant parce qu'une personne qui n'a pas de nourriture en suffisante et qui n'a pas non plus de nourriture de suffisamment bonne qualité, elle va développer des pathologies qui vont avoir des conséquences sur son physique, mais aussi sur son moral. Et problème sur le moral, ça peut aussi engendrer des conséquences sur les relations sociales et des personnes peuvent se trouver exclues. C'est la même chose pour l'alimentation spirituelle. Une alimentation spirituelle qui n'est pas suffisante en quantité et qui n'est pas suffisante en qualité peut aussi engendrer des conséquences. Alors, quelles sont les conséquences ? Regardez ce que nous dit Pierre ici. La méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Lorsque la parole n'habite pas suffisamment dans ton cœur, il y a un moyen de le savoir, c'est ce baromètre ici, ces symptômes qui sont là. Est-ce que tu rencontres chez toi de la méchanceté ? Est-ce que tu rencontres chez toi un esprit de ruse ? Etc. En fait, ce que nous dit Pierre ici, c'est que on a besoin de se nourrir de moins de choses qui nous nuisent, comme tous ces défauts, et on a besoin de se nourrir de plus de lait pur, de la parole qui transforme la vie. Quand tu te nourris de la parole, il se trouve qu'elle devient ton plaisir, ça devient ta vitamine, ça devient ta protéine, ça devient ton énergie vitale. Et à ce moment-là, ta vie spirituelle peut grandir. Alors parfois, on peut entendre qu'une prédication ne nous nourrit pas. Ou que c'est certainement parce que dans cette prédication, il n'y a pas suffisamment de paroles. Il n'y a pas suffisamment de références aux Écritures. Et quand la parole est partagée fidèlement, tu peux être nourri correctement. Alors, ça peut être un critère très important pour choisir une église. Lorsque tu choisis une église, tu peux la choisir pour son style, parce que ça peut correspondre davantage à ta culture ou davantage à tes goûts musicaux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et à Lyon, on a la chance d'avoir une diversité d'églises particulièrement variées qui permet de satisfaire les goûts de chacun. Mais la question centrale est... Est-ce que tu es nourri dans l'église que tu fréquentes ? Est-ce que tu entends la parole ? Et est-ce que la parole reste dans ton cœur et t'encourage, te permet de croître et transforme ta vie ? Et vous voyez comment c'est aussi un défi pour nous ici, à Sonra, d'apporter aussi des messages et des études bibliques et un enseignement qui soit nourrissant pour nos cœurs. Mais, ça ne suffit pas. Vous savez que la particularité d'un bébé, c'est qu'on lui donne de la nourriture. Et puis le principe, c'est qu'une fois qu'il a grandi, il est capable, lui-même, de se nourrir. Et puis un jour, certainement que son rôle sera de nourrir les autres. Quand il sera... D'accord ? C'est le développement normal. Eh bien, nous ici, dans cette église, on est là pour se nourrir. Et puis, il y a un moment donné aussi où on a besoin de se nourrir tout seul, de lire la parole soi-même, de plonger dans les Écritures chez soi. Et puis, à un moment donné, on a aussi la possibilité, lorsqu'on est bien nourri, lorsqu'on avance dans notre connaissance de Dieu, de pouvoir aussi le partager avec d'autres et de nourrir d'autres personnes. Il y a un deuxième verset que j'aime beaucoup dans ce psaume 34, c'est le verset 13. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ? Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ? Est-ce que ceux qui répondent non se lèvent ? Non, bien sûr. C'est une question rhétorique. La réponse est évidente. Qui ne veut pas voir des jours heureux ? Qui n'a pas envie d'une vie meilleure ? Etc. Mais David ici apporte une réponse un petit peu particulière. Il dit, ok, vous avez tous envie d'une vie meilleure, vous avez tous envie de voir des jours heureux. Ben alors voilà, c'est simple. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, détourne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix, poursuis-la. En bref, David insiste sur l'aspect relationnel, que pour vivre une vie heureuse, eh bien la clé c'est d'être en paix, et en bonne relation avec les autres. Pierre, toujours lui, aime bien aussi ce verset 13. Et il reprend ce verset 13, et regardez ce qu'il dit à ce sujet. « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez, au contraire. » Alors bienvenue à l'église des bisounours, où tout le monde s'aime et se respecte et est content de... Ici, le défi que Pierre nous propose, et le défi que David propose dans le psaume 34, c'est un défi qui est impossible. Mais bien souvent, pas pour les raisons que l'on pense. Il se trouve que nous pouvons, en tant que chrétiens, ne pas être d'accord sur tout. Nous pouvons avoir des opinions différentes ou des manières de voir les choses différentes, comme un diamant qui a différentes facettes, et selon la facette que l'on regarde, on ne voit pas le même reflet, mais c'est toujours un diamant. Dieu désire non pas l'uniformité, mais l'unité. Et on peut marcher même main dans la main sans être entièrement d'accord sur tous les sujets. Et c'est notamment, je vous le dis en off, ils ne sont pas là, alors je peux le dire, avec les autres anciens, on n'est pas d'accord sur tout, mais on arrive à ne pas être d'accord sur tout. Et c'est tellement, je suis tellement reconnaissant pour cela, parce que ça veut dire qu'on peut parfois donner des opinions et avoir un débat contradictoire, et puis après on voit ce qui se passe, mais on finit jamais avec une batte de baseball à se taper dessus. Non, il n'y en a pas. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des divergences, mais on n'a pas besoin non plus d'être désagréables les uns envers les autres. Alors comme Français, ça c'est difficile. Et surtout comme Lyonnais en plus. Alors, l'application elle est toute simple. Est-ce que tu as envie de voir... d'aimer la vie, de voir des jours heureux, eh bien, est-ce qu'il y a une personne avec qui tu as besoin de retrouver une relation saine ? Est-ce qu'il y a une personne avec laquelle tu as peut-être besoin de t'arrêter, puis de commencer par parler de cette personne à Dieu, avant de parler à cette personne de Dieu, et puis ensuite enclencher le processus de paix ? Dernier passage, c'est les versets 16 à 23. Vivre, libérer, délivrer. Il y a une émission télé aux États-Unis qui s'appelle The Alex Jones Show. C'est diffusé sur plus d'une centaine de radios aux États-Unis. C'est un site, c'est une émission qui est plutôt située bien à droite sur l'échiquier politique. Je ne vous le cache pas. Et très régulièrement, cette émission lance des réflexions, par exemple, ou plutôt des informations. Par exemple, la dernière information lancée, c'est que un invité de cette émission a affirmé que la NASA kidnappait des enfants pour les envoyer dans une colonie esclavagiste sur Mars. Et il a dit, nous croyons réellement qu'il y a sur Mars une colonie habitée par des enfants esclaves. Ils y arrivent après un voyage de 20 ans, dans l'espace. Et une fois sur place, ils n'ont plus d'autre choix que de devenir des esclaves. Donc si vous avez des enfants, surveillez-les. C'est ce qu'on appelle une fake news, une fausse nouvelle. Vous avez entendu ce terme qui fait souvent l'actualité. En fait, ce sont des informations qui sont dites de manière très sérieuse, qui peuvent être reprises par des journaux très sérieux, mais qui sont en réalité sont fausses, sont truquées. Le but, c'est en fait d'induire en erreur l'opinion, d'induire en erreur les lecteurs et de leur faire croire à des choses qui sont complètement, en réalité, montées de toutes pièces et qui ne sont pas réelles. Ce psaume, il témoigne d'un esprit de confiance débordante en l'Éternel. Le cœur de David déborde parce qu'il a une perspective claire au sujet de l'Éternel. Et les affirmations qu'il apporte dans ce psaume ne sont pas des fake news, ce ne sont pas des fausses informations. Ce qu'il nous dit sur l'Éternel, ce qu'il nous apprend sur Dieu, ce sont des réalités qu'il a lui-même vécues, qu'il a découvertes et qu'il souhaite partager avec les personnes qui l'écoutent. Et dans ce psaume, on trouve pas moins de 12 caractéristiques de l'Éternel. Je vous les résume. L'Éternel est bon. L'Éternel répond. L'Éternel délivre. L'Éternel entend. L'Éternel sauve. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'Éternel arrache au danger. L'Éternel voit. Il est attentif. Il est prêt de ses enfants. Il garde tous ses eaux et l'Éternel rachète. En 22 versets, si on ne compte pas le premier qui est une introduction, on a 12 caractéristiques de l'Éternel. 12 caractéristiques qui sont vraies, qui sont fiables et sur lesquelles on peut s'appuyer dans notre vie de tous les jours. Alors vous voyez, et je vais conclure avec ça, David, c'est un guerrier, c'est un champion qui a vaincu Goliath, qui a sauvé sa vie de manière complètement humiliante en devant feindre d'être complètement fou allié. Comme quoi, le champion n'est pas forcément celui que l'on croit. Mais d'ailleurs, en parlant de folie, est-ce qu'il y a une autre histoire de folie ailleurs dans la Bible? Eh bien, Paul nous dit que la croix est une folie. Et en réalité, Jésus-Christ, le roi des rois, a accepté cette folie incroyable de venir sur la terre, de quitter la gloire qui était la sienne, jusqu'à mourir sur la croix à notre place. Et cette folie nous permet, nous, de prendre conscience à la fois qu'on ne méritait pas que Christ fasse cela pour nous, mais de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi être des champions, nous pouvons aussi célébrer sa victoire et le glorifier, quelles que soient les circonstances, parce que grâce à la folie de l'Évangile, Grâce à la folie de ce que Christ a fait, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous pouvons parler avec Dieu. Et Dieu nous entend. Et Dieu est bon envers nous. Et Dieu nous sauve. Et Dieu campe autour de nous. Et Dieu est près de nous. Et les autres, vous les retrouvez dans le psaume 34. David a été sauvé en faisant le fou. Nous sommes libérés et délivrés par la folie de l'Évangile. C'est Jésus-Christ qui est notre salut. Et quelles que soient nos compétences, quelles que soient nos mérites, quelles que soient les choses que l'on fait pour s'en sortir dans la vie, on ne doit jamais oublier que c'est à lui que revient toute la gloire.